Les rendez-vous du grand direct de l'info,
ce sont tous les rendez-vous de Jean-Marc Morandini, partout, tout le temps.
Et c'est votre grand direct sur Europe 1, votre quotidien fait l'actualité avec comme spécialiste pour vous répondre aujourd'hui Isabelle Quenin pour la conso, Anne Le Gall pour la santé et Roland Pérez, avocat Jean-Marc Morandini.
Et on va commencer avec vous Isabelle, avec un sujet qui ne concerne pas du tout aujourd'hui. Donc je vais écouter pour faire
semblant.
C'est sûr
que vous êtes coiffé sorti de douche. Hein.
Exactement, donc les séchoirs, ça j'utilise jamais moi.
Alors un petit peu d'histoire, si vous êtes dans un dîner et que la conversation tombe, vous pourrez toujours
sur
balancer
les séchoirs, bien sûr.
Voilà,
on
que le sèche-cheveux est né en 1926 et que c'est un ingénieur de chez Calor qui
facile,
a inventé le premier sèche-cheveux. Non mais c'est bien dans un dîner.
Ouais, c'est ça.
Voilà. En 1950.
Je comprends pourquoi je n'ai jamais dîné chez vous, parce que ça n'a aucun intérêt les conversations.
Ça n'a aucun intérêt.
Si on parle de sèche-cheveux.
Mais si, parce que vous allez voir, je vais vous donner tous les éléments pour relever la conversation.
Allez.
En 1950, c'est un ingénieur, un autre, mais de chez Moulinex cette fois-ci, qui a l'idée de le profiler sur un modèle de perceuse, d'où la forme du sèche-cheveux que l'on connaît. Ah, vous voyez que c'est intéressant.
Oui.
Vous êtes fait avoir la
vie. 3,5 millions
d'appareils vendus en 2007, le marché du sèche-cheveux, avec à raison de 3 brushings par semaine, ça ne vous concerne toujours pas, un coût électrique de 5 € par an.
Bon, donc.
Bon, donc quoi?
Donc quoi?
Alors, à prendre en compte.
Comment choisir son séchoir, c'est ça?
Exactement. La puissance, donc, c'est affiché sur les boîtes. 1300 à 2200 watts. Alors ça, c'est en théorie, parce que généralement, les puissances sont beaucoup plus faibles que celles qui sont annoncées par les fabricants, mais ils se font plaisir. Et surtout, ils font un petit coup de marketing. On se dit, mon Dieu, tant de puissance au service de mes cheveux. C'est absolument extraordinaire.
Il faut prendre combien pour être servi?
Il faut qu'on soit dans les 2000 watts. Hein.
2000,
là, c'est
d'accord.
Bien. Attention, si c'est trop fort, c'est
brûle.
Dangereux, parce que à pleine puissance et un peu près de votre cuir chevelu, certains affichent 80 degrés C.
Oula.
Donc le test,
c'est ça veut dire Celsius. Hein.
Exactement. Si, et quand ça sent le cochon grillé, c'est que c'est pas bon. Et mieux,
voyez
mieux
résultat, hein, voyez le résultat sur moi.
Vitesse et température, ben, y a deux vitesses généralement et deux températures. Alors parfois ça va un petit peu au-delà. On peut avoir une troisième température qui serait le froid et qui serait idéal, paraît-il, pour fixer le brushing. Sans ça, vitesse, ben, y a plutôt lent ou plutôt turbo. Nouveauté, est-ce que vous savez que c'est comme dans Super Jimmy, il y a une fonction ionique.
Oula, ça sert à quoi ça?
Et ben, c'est antistatique. Alors cette fonction ionique émet des ions négatifs pour lutter contre l'électricité statique.
Ah,
ça évite d'avoir les cheveux qui dressent tout seul sur la tête. Les accessoires, la panoplie qui va avec, c'est assez simple. Un embout, donc un concentrateur ou encore un diffuseur pour augmenter le volume. Ça, c'est la base. Mais moi, j'ai envie de rajouter deux éléments. Premièrement, le poids. Alors là, on tourne d'une façon générale à 500 grammes. Attention, certains affichent 800 grammes. Alors là, ça fait un petit peu lourd. En même temps, ça fait alter. Bon, le tout, c'est pas oublier de changer de main. Sans ça, vous risquez d'avoir un biceps gauche surdéveloppé. C'est normal, la main droite tient la brosse quand on est droitier et c'est la main gauche qui tient le sèche-cheveux. Donc généralement, prévoyez 500 grammes parce que c'est vrai que 800 grammes c'est bien, mais
on
c'est quand même
un petit peu lourd.
Et hyper important, je le disais tout à l'heure en faisant mention à votre maman qui est ma plus fidèle auditrice, la longueur du cordon.
Ah.
Alors certains sont à 3 mètres, c'est bien parce qu'on peut sécher en même temps se balade dans la salle de bain. D'autres en revanche sont à moins d'1,60 m. Alors là on sèche contre le mur, tout près de la prise et c'est quand même beaucoup moins confortable. Des prix de 13 à 60 €. Alors lequel choisir, vous me direz.
Oui,
il y a un superbe test réalisé par 60 millions de consommateurs qui en a testé 12. The winner is Calor à 60 €. Il est parfaitement complet.
C'est le plus cher en même temps.
C'est le plus cher et c'est le plus lourd. Hein. Il fait 800 grammes, mais il a 3 mètres de cordon, mais il fait tout.
Sauf la taille du cordon, ça vous obsède. Hein.
Mais c'est hyper important. On ne peut pas bouger la main qui tient ses cheveux.
Bien sûr.
D'accord.
Allez-y.
En deux, on a le Philips à 40 €. C'est le plus rapide pour sécher. Et enfin, en trois, le Remington à 15 €. C'est efficace et vraiment pas cher. Ça me fait penser à une autre marque. Le test le plus drôle et surtout donc, qui est à la fin de cette enquête, bien sûr, c'est la chute. Alors, on les a fait tous tomber de 90 cm de haut. Et là, vous allez voir que c'est l'hécatombe. Question sécurité, NF absolument. Avec, là, vous notez bien, NFC 15-100. Là, on est spécialement dans l'univers des sèche-cheveux.
C'est un jeu de taille de balle, ça, c'est quoi?
Voilà. Non, c'est pas la taille de mon balconnet. C'est surtout pour vous dire que, à l'arrêt près d'un point d'eau, surtout, on le débranche.
Voilà. Très bien.
J'ai tout dit.
Vous nous rappelez les trois gagnants, là, rapidement?
Alors, c'est Calor. Le premier. En deux, c'est le Philips. Et en trois, c'est le Remington. Et le Coréa, il est dans les choux.
Très bien. Super. Avec vous, Anne Le Gall, on va parler du cerveau, puisque c'est le neurodon qui se tient cette semaine. Le neurodon, qu'est-ce que c'est? Il faut donner des neurones.
Le neurodon, c'est une collecte de fonds pour la recherche sur le cerveau.
On donne de l'argent, pas des neurones.
On donne de l'argent, exactement.
Très bien.
Les neurones, pas encore.
Bon, les mystères du cerveau, Anne.
Alors, l'un de ces mystères, c'est pourquoi, par exemple, Léonard de Vinci, Jimi Hendrix et plus près de nous, Barack Obama, sont-ils gauchers alors que nous, comme 85% de la population, nous sommes droitiers, nous tenons notre sèche-cheveux dans la main droite.
Est-ce qu'il y a un début d'explication à ça?
Il y a un début d'explication. L'explication serait génétique. L'origine de la préférence pour un côté du corps viendrait d'un gène et c'est l'absence de ce gène qui ferait qu'on serait gaucher plutôt que droitier. Donc rien à voir avec l'éducation. Et d'ailleurs, il ne faut surtout pas contrarier un enfant gaucher. Au contraire.
Mais est-ce que le fait d'être gaucher ou droitier, ça donne des aptitudes différentes?
Et oui, on le voit dans le sport, hein, souvent, notamment dans les sports individuels. Voilà, le revers, tennis, extrême. C'est très déstabilisant d'avoir en face de soi un joueur qui joue en miroir. Donc effectivement, c'est un véritable atout. Et puis dans la vie en général, le cerveau des gauchers et des droitiers ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Parce qu'en fait, on ne sollicite pas évidemment les mêmes hémisphères. Celui qui écrit de la main droite a tendance à faire travailler davantage son hémisphère gauche, qui est celui de la logique et du langage. Mais le gaucher, lui, il fait non seulement travailler son hémisphère du langage, mais en plus, il fait travailler l'autre également. Donc, il a un meilleur repérage dans l'espace. Et en fait, il a plus de connexion entre les deux hémisphères.
C'est-à-dire qu'ils sont plus forts que nous, en fait, les gauchers.
Eh bien oui, j'ai interrogé le docteur Jean-François Demonet, neurologue et directeur de recherche à l'INSERM. Et il explique qu'effectivement, les gauchers ont une petite supériorité par rapport aux droitiers.
Ah bon?
La connexion, finalement, entre les hémisphères cérébraux, est peut-être un peu plus compliqué et aussi permettant plus de souplesse chez les personnes gauchères que chez les droitières.
Et ça veut dire qu'un gaucher s'adapte mieux ?
C'est ça, on peut penser que cette organisation du cerveau un peu particulière et qui implique une gymnastique un peu soutenue entre les deux hémisphères favorise effectivement la jonglerie entre différents registres de la pensée, entre une pensée analytique et une pensée globale. C'est-à-dire que les gauchers ont tendance à avoir une organisation plus compliquée et aussi peut-être plus propice au changement et à l'adaptation à des situations nouvelles.
Donc les gauchers s'adaptent mieux au changement et si par exemple ils font un accident vasculaire cérébral, ils ont aussi plus de chances de récupérer vite.
Oui. Est-ce que le fait d'être gaucher, ça peut être un handicap aussi? On sait pour utiliser les objets par exemple, c'est pas toujours facile.
Les ciseaux, le stylo plume pour un gaucher, c'est un petit peu galère. Mais il existe des objets adaptés sur le marché, j'en ai trouvé sur internet, c'est très facile. Dans un moteur de recherche, on tape gaucher, on tombe même sur des tailles crayons, des sécateurs ou des ouvre-boîtes pour gaucher.
Et si on a du mal à distinguer sa droite de sa gauche, est-ce que c'est grave?
Alors, j'ai posé la question au neurologue de tout à l'heure, puisque je crois que quelqu'un autour de cette table est concerné.
C'est dégueulasse de mettre dans votre chronique ce qu'on se dit hors antenne.
Alors, ce n'est pas grave. c'est souvent lié à un problème pour se situer dans l'espace.
C'est un problème pour se situer dans l'espace.
C'est pas qu'on a du mal à repérer le côté dominant ou
non,
pas.
Non, il faut réfléchir. Enfin, moi, je réfléchis pour ma droite et ma gauche.
Alors, si vraiment c'est handicap, ça serait éduque.
Non, mais ça ira, je m'en sors mieux comme ça.
Mais est-ce qu'on peut contrarier un droitier pour qu'il devienne gaucher s'il est plus intelligent?
Quel intérêt?
S'il devient plus intelligent. Si on vous dit que être gaucher peut-être.
Vous êtes droitier. On va voir quand on entend vos réflexions. À l'occasion du neurodon, on peut faire un geste pour la recherche.
Alors je vous renvoie vers le site internet de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. C'est www.frc.asso.fr. Les fonds collectés serviront à mieux connaître cet ordinateur que nous avons entre les oreilles et aussi à financer la recherche sur les médicaments, car on estime que les maladies liées au cerveau représentent 35% du total des maladies en Europe.
C'est passionnant. Le cerveau, en tout cas. Oui.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour développer, du coup, quand on est droitier, pour développer son autre hémisphère, celui qui est moins sollicité, pour devenir aussi brillant que les gauchers?
C'est génétique, la préférence elle est génétique, donc garder ses aptitudes et les développer. Mais
même en travaillant, on peut rien faire. Pour développer plus.
Pour développer, donc, l'autre côté.
Bon, allez, pas besoin,
avec vous, Roland Pérez, vous allez nous expliquer comment rectifier les informations qui nous concernent dans les fichiers bancaires.
C'est quasiment impossible.
Bon, merci. Et on va passer à la deuxième
44.
Partie.
Rappel un petit peu, un petit rappel des données. Il existe en fait deux grands fichiers en matière de difficultés bancaires, on va dire. Le premier, c'est le fichier qui est le FCC, le fichier central des chèques, qui centralise tous les chèques sans provision. Vous savez que normalement, on doit aujourd'hui, avant de vous mettre en difficulté à la banque, on doit vous informer par tout moyen de ce que le chèque que vous avez émis va être présenté et que vous n'avez pas la provision suffisante pour le payer. Avant, vous étiez sans provision et automatiquement. Aujourd'hui, on doit vous informer par téléphone, par courriel, par lettre. On doit vraiment vous indiquer avant de vous mettre en difficulté. Si ça n'a pas été fait ou si véritablement vous n'avez pas pu régulariser votre situation, eh bien, vous allez être fiché au fichier central des chèques. Même chose lorsque vous ne payez pas une mensualité d'un crédit. lorsque vous avez deux mensualités qui n'ont pas été payées, eh bien vous pouvez vous retrouver au fichier des incidents de crédit, le fichier le FICP, c'est le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et là dans ces deux cas vous pouvez rester inscrit pendant 5 ans. Donc d'accord, c'est extrêmement compliqué sauf à régulariser votre situation le plus rapidement. Alors ensuite vous avez comment le savoir, parce que en fait lorsque vous demandez un chéquier ou lorsque vous demandez un crédit, on vous dit ah ben non, votre banque vous dit, ou la banque que vous avez consultée vous dit ah ben non, vous êtes inscrit sur les deux ou l'un des deux fichiers, donc c'est impossible. Vous savez que vous avez un droit à l'information qui est ouvert à tout le monde en vous présentant à une succursale de la Banque de France avec votre carte d'identité, où vous avez un numéro de téléphone que je vais vous donner, qui est très important et qui est très intéressant puisque c'est un numéro qui a été mis en place par la Banque de France pour connaître parfaitement vos droits et pour connaître votre droit en tout cas à l'information. C'est le 0811 901 801, 0811 901 801. On l'a mis évidemment sur le site d'Europe1.fr pour retrouver ces coordonnées. À partir de là, ce droit à l'information, une fois que vous avez et vous estimez que c'est tout à fait abusif ou que vous avez peut-être régularisé votre situation, c'est avec votre banque que vous devez faire toutes les tractations, mais vous n'êtes pas toujours au mieux avec votre banque parce que vous lui en voulez d'avoir fait
ça. Ça veut dire que c'est la banque qui va vous retirer du fichier ?
C'est la banque qui
Personne d'autre.
Personne d'autre, parce que c'est la banque qui est en relation avec la Banque de France. Donc c'est la banque qui est obligée aujourd'hui, enfin qui aurait l'obligation de le faire. Si véritablement ça se passe mal, et si vraiment votre banque traîne le pied ou fait la sourde oreille pour pouvoir le faire, vous savez que vous avez la CNIL qui peut intervenir à la fois en tant que médiateur et la CNIL qui peut transmettre au procureur de la République toutes les difficultés si vous arriver à rapporter la preuve que c'est parfaitement abusif. Puis vous pouvez mettre évidemment en difficulté judiciaire, je dirais cette fois-ci, votre banque et l'assigner et l'obliger à faire toutes les tractations auprès de la Banque de France.
Merci beaucoup Roland Pérez. Toutes les informations sont sur Europe1.fr. Bien évidemment, dans un instant, nous allons parler du texte qui a été voté cette nuit qui interdit toute vente d'alcool et de tabac aux mineurs. Est-ce la meilleure solution ? 01 42 32 15 15. 01 42 32 15 15. A tout de suite sur Europe1.
Votre grand direct continue sur Europe 1 avec Isabelle Quenin, Anne Le Gall et Roland Pérez. Guy Carreau nous a rejoint, il est médecin, chercheur et spécialiste de l'alcool. Pour tous vos témoignages, 01 42 32 15 15 et Europe1.fr, Jean-Marc Morandini.
Et oui, pour acheter de l'alcool ou du tabac, il faudra désormais être majeur. Les députés l'ont voté hier. Pour l'alcool, jusque-là, il fallait avoir 16 ans. Désormais, il faudra en avoir 18. Et pour le tabac, c'est pareil, 18 ans pour pouvoir acheter des cigarettes. Docteur Guy Carreau, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1.
Est-ce
que interdire l'alcool aux mineurs, c'est la bonne solution?
Alors, je vais vous répondre que ça n'est pas la bonne solution, d'une part parce que c'est inefficace, et je vais pouvoir préciser si vous voulez, mais ce qui est plus grave, c'est que c'est dangereux, et c'est pour ça que c'est pas une bonne loi.
Alors, on reprend dans l'ordre. Pour vous, c'est inefficace tout d'abord, pourquoi?
Alors, c'est inefficace si on observe ce qui se passe aujourd'hui. Hein, c'est ça qui permet de dire que c'est une telle loi est inefficace. Aujourd'hui, la vente d'alcool est interdite au moins de 16 ans. Mmh. Alors, ce qu'on voit, c'est que il y a des jeunes de 12 ans, 13, 14, 15 ans, qui presque tous ont de l'argent de poche, et qui peuvent se procurer des boissons alcoolisées quand ils veulent. Par exemple, enfin, s'ils peuvent pas l'avoir tout seuls, ce qui est quand même assez fréquent, en les faisant acheter par des copains plus âgés.
Ouais.
Hein? Donc, c'est pas parce qu'on va l'interdire entre 16 et 18 ans que ça va changer ça. Donc ça, c'est inefficace.
Ça, c'est inefficace. Et vous, vous dites que c'est dangereux aussi.
Et oui, le problème, si vous voulez, il faut des interdits, mais il faut qu'ils soient expliqués et respectés. Dans la vie, on a un certain nombre d'interdits qu'on reconnaît socialement. Mais si c'est des interdits qui sont estimés abusifs, ils sont transgressés. Et là, le gros risque ici, et c'est pour ça que je dis que c'est dangereux, pas seulement inefficace, c'est de provoquer ce qu'on appelle des effets pervers. C'est bien connu, les effets pervers, par exemple, avec la crise économique, on sait qu'il y a eu plein d'effets pervers, de mesures des politiques ou des banques, et dans d'autres domaines, c'est pareil, dans d'autres lois. Les effets pervers, c'est deux choses qui peuvent se passer là. C'est d'abord renforcer les tendances des jeunes à transgresser cet interdit et à s'opposer aux parents qui leur diront « ne bois pas » ou « ne fais pas ci, ne fais pas ça » et aux institutions. Hein, toutes les institutions sociales, l'école,
C'est-à-dire que plus on leur dit c'est interdit, plus ils vont avoir envie d'aller consommer.
Dans ce domaine-là, précis.
Ouais, dans ce domaine-là, on a bien compris.
Dans tous les domaines.
Oui, tout à fait.
Et l'autre chose qui montre que c'est dangereux, c'est que, oui, cet interdit, ça, ça revient à leur dire, ne devenez pas adulte, vous êtes trop jeune, avant 18 ans, n'y touchez pas.
Ouais.
Hein? Alors qu'on leur dit, dans d'autres domaines, devenez adulte, c'est-à-dire, les adultes en France, ben, on sait boire et apprécier des boissons, alcoolisées sans alcool, et puis, maîtriser les risques. Hein? Et, voilà.
Mais ça veut dire qu'il fallait faire quoi, finalement, docteur Vicaro?
Alors, je termine, deuxième chose, vite fait, avant de vous répondre à ce qu'il fallait faire quoi, c'est que la deuxième dangerosité, c'est que cette loi, si elle passe, mais le Sénat va peut-être la retoquer, c'est de décrédibiliser, excusez-moi pour le gros mot, comme aurait dit Coluche, de décrédibiliser un peu plus les discours de santé publique dans ce domaine qui sont contradictoires et incohérents. Par exemple, deux petites phrases, on sait que un verre seul de boisson alcoolisée, de vin notamment, c'est bon pour la santé.
Oui.
Et d'un autre côté, on vient de nous dire, dans les journaux, à la une des journaux, etc., dans les radios, un verre, ça provoque le cancer. Vous avez vu ça, vous aussi?
Donc ça veut dire qu'on n'y comprend plus grand-chose.
Ah ben, et c'est complètement contradictoire. Ouais. Alors, en termes de pédagogie, vous savez que si on dit des choses contradictoires, les gens vous croient pas. Quoi.
Mais est-ce que c'est pas le rôle du gouvernement, malgré tout, de mettre des interdictions, de mettre des barrières?
Ah, alors là, si, vous avez raison, mais mettre les bonnes interdictions, ou sinon des bonnes barrières, et surtout, c'est le rôle du gouvernement de faire de la pédagogie, de faire de la prévention. Hein.
Il vaut mieux faire de la prévention que d'imposer des interdictions, si je vous comprends bien.
Alors, dans ce domaine précis-là, hein, on parle des 18 ans et interdire la vente d'alcool.
Oui.
Hein. Pour moi, alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, et choquer les auditeurs, c'est que je trouve que cette loi, si elle passe, c'est une loi imbécile. Hein, et je pèse mes mots, hein, ouais. Avant de vous le dire, je parle calmement, à cause de son inefficacité et sa dangerosité. Alors, on peut faire autre chose dans ce domaine précis.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Alors, ce qu'on peut faire, alors, on peut faire des choses, développer des choses qui ont déjà été réalisées, qui ont été faites avec des adolescents, avec des collégiens, des lycéens, des étudiants, et avec des institutions, des lycées, des collèges, des collectivités, des mairies, etc. Et des choses qui ont marché, c'est-à-dire, je vous donne un exemple vite fait.
Oui.
C'est, pendant toute une année, on a travaillé avec un collège breton, parce que je travaille sur le terrain breton, région qui a été très touchée par l'alcoolisme, et qui va beaucoup mieux de ce point de vue-là aujourd'hui. Pendant toute une année scolaire, une classe entière a travaillé avec deux ou trois profs, le directeur, et avec notre équipe de prévention, de recherche appliquée sur la prévention et la pédagogie. Et ces jeunes Bretons, on les a amenés pendant une dizaine de jours dans une région viticole, précisément dans l'Aude, où ils ont été accueillis dans un lycée viticole. Ils ont eu des initiations à la dégustation de vin, mais ça peut se faire avec du cidre, avec de la bière, des initiations à la dégustation. Ils ont comparé les problèmes d'alcool dans le Languedoc-Roussillon et en Bretagne, comparer les manières de boire le vin là-bas et le cidre ici.
On est vraiment dans l'éducation, totalement dans l'éducation.
Oui, et le résultat, parce que le résultat a été évalué, c'est bien meilleur que l'interdit.
Ouais.
Hein?
J'ai bien compris, docteur Guicard. Reste en ligne avec nous, on va aller au standard d'Europe 1. Bonjour Cécile.
Bonjour Monsieur Morandini, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, bienvenue, vous nous appelez de Nancy. Absolument. Vous êtes la maman d'un garçon de 16 ans qui est en rupture avec la société et qui rentre ivre le soir, c'est ça?
Je pense que le problème dure depuis plusieurs semaines, mais on s'en aperçoit pas forcément au début. On s'en aperçoit quand le problème est installé et grave. Vendredi soir, il est rentré ivre, extrêmement mal. Il était en hypothermie à 35,7, tachycardie très rapide, impossible à compter, hypertension.
Et vous arrivez à en parler avec lui, Cécile?
Non, c'est pas possible. Ce soir-là, j'ai fait venir SOS médecin qui nous a dirigé vers le service d'urgence à l'hôpital. Mon fils a été pris par les psychiatres pendant environ 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, on m'a fait rentrer. Et là, ça a été mon procès. J'étais face à deux juges sans avocat. On m'a demandé si j'avais fait quelque chose pour mon fils. J'ai tout entendu. C'était moi la coupable et la seule coupable. Mon fils a dit des mensonges absolument éhontés. On le croyait. Et on me demandait comment je ne m'étais pas aperçue.
Alors, justement, docteur Guicaro, on entend le témoignage difficile de Cécile et de son garçon de 16 ans.
Oui.
Dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, voilà, ça c'est à partir de cas précis qu'on peut travailler, et le cas de Cécile et de son fils de 16 ans, si on travaille sur le déroulement de ce qui s'est passé, on peut faire avancer les choses. Je vais vous dire dans quel sens. Mais il faut d'abord voir les faits qui se passent, et puis ensuite essayer de se poser la question, et ça on peut le faire, de dans quelles circonstances, comment et pourquoi, quel sens ça a. Et ensuite, à partir de là, eh ben, on va avoir une attitude de bon sens.
Mais d'abord, moi, je suis psychiatre. Il faut redérouler l'histoire, en fait.
Oui.
Il faut essayer de repartir du début et de savoir pourquoi ce garçon est arrivé là.
Et je vais vous dire, par rapport au témoignage de Cécile, moi, je suis psychiatre aussi. Si ça, ça avait été moi, le psychiatre, là, j'aurais commencé par, surtout, ne pas faire de reproches à Cécile. Ça, c'est, en termes de déontologie, c'est même pas admissible.
Ça a été épouvantable, j'ai cru mourir.
Eh oui, oui, mais ça, c'est pas ça qui arrange les choses.
Mais non, au contraire.
Hein, bon, voilà, alors, si on avait plus de temps, je dirais un peu qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'évidemment, mon boulot, c'est de faire ça aussi, de temps en temps.
Mais en tout cas, Guy Caro, il faut s'alerter dès qu'on voit qu'on a un enfant qui a 15-16 ans et qui commence à boire de l'alcool. À ce moment-là, il faut commencer à se poser des questions.
Ah. Oui, là vous avez raison. Et commencer à se poser des questions, non seulement ceux qui s'en aperçoivent, parce que parfois c'est la maman ou le papa, mais parfois c'est des voisins, c'est des copains, c'est un prof, c'est un travailleur social, etc. Et là, il faut se poser des questions et travailler avec l'enfant ou l'adolescent, mais aussi avec son entourage, avec la famille, avec les voisins, avec les copains aussi, les copines, et on arrive à comprendre dans quelles circonstances, et parce qu'on comprend, on aide à trouver une bonne solution. C'est pas compliqué comme méthode.
Il faut comprendre, il faut écouter. Docteur Guy Caro, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Merci également à Cécile d'avoir été là. Bon courage à vous, Cécile. Éventuellement, on vous donnera peut-être les coordonnées du professeur professionnel afin que éventuellement vous puissiez rentrer avec lui parce que vous avez l'air assez désemparé et on va essayer de vous aider. Merci à tous. Le Grand Direct continue. À tout de suite.
Dans le grand direct de l'info, c'est le moment de Politiquement Incorrect avec Frédéric Bonneau, Jean-Marc Morandini.
Et aujourd'hui, Frédéric, vous tenez à nous faire part de votre indignation. Mais qu'est-ce qui vous arrive?
Non, il y a de quoi, Jean-Marc, là. Vraiment, trop c'est trop. C'est de l'indignation, du dégoût, de l'écœurement. Je n'aurai pas de mots assez durs. Contre qui, à votre avis? Mais contre les journalistes. Mais contre les journalistes. Il y a des gens qui ne font pas ce qu'on leur dit de faire. C'est quand même insensé. Et alors, mon Nicolas veut prendre un petit week-end avant sa visite d'État au Mexique. Et alors? Qui ça regarde? Franchement, qui ça regarde? D'ailleurs, il y a des journalistes très bien qui n'en parlent pas. Vous avez remarqué. D'ailleurs, 98% des journalistes très bien n'en parlent pas. Sur les radios, quasiment pas un mot. Au journal de 20h de Laurence Ferrari, est-ce que vous avez entendu parler du petit week-end mexicain de mon Nicolas? Non. David Pujadas, un homme très bien ce David Pujadas. Parfait. Impeccable. Pas un mot sur le petit week-end de mon Nicolas au Mexique. Tout allez, bien, ça ne regarde personne.
C'est leur vie privée.
C'est leur vie privée. Quand ils décident de s'exhiber, on est là pour couvrir. S'ils décident de plus s'exhiber, on ferme notre gueule. C'est ça le journalisme, Jean-Marc, quand même. Et alors, tout allait bien, et puis Internet. Frédéric Lefebvre, John Travolta, il a raison de dire qu'Internet, vraiment, mais vraiment, c'est un ramassis de chiens et de hyènes. On peut pas leur faire confiance. C'est pas comme le journal de France 2 de 20h, vous voyez. Là, on peut leur faire confiance. Quand on leur dit de pas en parler, ils en parlent pas. Internet, ils en parlent quand même, c'est quand même insensé. Mediapart.fr, qu'est-ce que c'est que ces galeux là? Je sais pas ce que c'est. Mediapart.fr, un dénommé Gérard Desportes, j'espère que d'un point de vue fiscal tout est en ordre d'ailleurs, un dénommé Gérard Desportes, je le balance parce qu'il le mérite, qu'est-ce qu'il nous titre? Une grosse rechute bling bling pour le couple Sarkozy. Je le répète, ça a l'air insensé. Une grosse rechute bling bling pour le couple Sarkozy. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce dénommé Gérard Desportes? J'espère que vraiment fiscalement tout est en ordre pour lui, eh ben il nous dit que la sympathique petite résidence de vacances, hein, où mon Nicolas et sa Carla ont passé leur samedi, leur vendredi et leur samedi, comme tout un chacun, eh ben leur bungalow, figurez-vous, était quand même à 3 900 $ la nuit. Et selon ce Gérard Desportes et le site, donc Mediapart.fr, eh bien la totalité totalité de ce mini week-end, parce que vendredi, samedi, c'est même pas un vrai week-end mexicain, de mon Nicolas et de sa Carla, aurait coûté 50 000 euros quand même, hein, l'ardoise avec évidemment l'entourage, les gardes du corps, tout ça. Alors évidemment, il y a des questions qui se posent. Combien ça coûte, je viens de vous le dire, et surtout, qui paie? Alors qui paie? L'Élysée nous a rassuré par la voix de Franck Louvrier, c'est les Mexicains qui payent, ce ne sont évidemment pas les Français. Donc c'est le président mexicain lui-même qui a invité mon Nicolas et sa Carla. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est avec ses sous à lui, au président mexicain, ou avec les sous de l'État mexicain. À mon avis, mon petit doigt me dit que c'est plus la seconde solution, Jean-Marc. Donc voilà, on sait quelques petites choses intéressantes à cause de journalistes qui ne font pas leur travail.
Mais ces gens ne sont pas parvenus à gâcher le séjour mexicain de votre Nicolas.
Moi, j'espère bien que non, parce que vraiment, le séjour mexicain de mon Nicolas, c'est une sorte de synthèse du sarkozysme à l'étranger, de la visite d'État Sarkozy. C'est-à-dire que ça commence par un petit séjour bling-bling à 50 000 boules les deux jours, ça c'est pour commencer, et puis si possible, le dimanche, on fait deux trucs, on fait signer des contrats pour Supercopter, le super-hélicoptère européen, donc voilà, contrat pour Supercopter, et puis, si on peut faire un peu d'humanitaire spectaculaire, genre libérer une ressortissante française qui est en tôle au Mexique, c'est cool. Donc je lance un appel aux chefs d'État étrangers. Si vous voulez la visite de mon Nicolas, c'est assez simple. Il faut avoir des contrats à signer, il faut avoir des installations hôtelières à 4000 boules la nuit, sinon c'est pas la peine. Et s'il y a une ressortissante française qu'on peut faire libérer, là vraiment, c'est la cerise sur le gâteau.
Merci beaucoup Frédéric Bonneau, Politiquement Incorrect, c'est tous les jours, juste après le journal de 13h.
C'est le grand débat dans le grand direct de l'info avec aujourd'hui face à face Roger Haug, journaliste, Patrice Bessac, porte-parole du Parti communiste français, et en direct de Marseille, Henri Quinson, qui est moine, Jean-Marc Morandini.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Je voulais commencer en parlant des gros sous des joueurs de foot, mais puisque Frédéric Bonneau en a donné l'occasion, on va dire un petit mot sur le voyage de Nicolas Sarkozy au Mexique ce week-end qui aurait coûté 50 000 euros. On le redit, hein, c'est pas l'État français qui a payé, c'est visiblement le gouvernement mexicain. Est-ce que ça vous choque qui veut commencer là-dessus?
Moi non, ça me choque pas. Si c'est l'État mexicain qui paye, et même, je vais vous dire, si c'était l'État français qui payait, ça fait partie des frais obligatoires pour un président de la République qui se déplace à l'étranger pour signer des contrats commerciaux qui vont apporter de l'argent à des entreprises et surtout qui vont faire travailler des gens. Donc moi ça me choque pas, faut arrêter le médiatiquement correct qui consiste aujourd'hui à taper sur le président de la République française dès qu'il bouge, dès qu'il fait quelque chose. C'est quand même quelqu'un qui mousse sa chemise et qui sait trouver des solutions aux problèmes et qui reste pas enfermé dans
Patrice Bessac.
Ouais, moi ça me choque, mais
qu'est-ce qui vous choque?
C'est 50 000 euros pour passer deux jours, ça fait du 1000 euros de l'heure, quelque chose comme ça. Mais ça me choque et à la fois ça me fait pitié. Ça veut dire que ce couple ne peut pas être heureux à part claquer du pognon dans des hôtels de luxe. Moi, j'aimerais dire que cette société qui nous propose que pour être heureux, il faut posséder est une impasse. Moi, je pense que pour être heureux, il faudrait un peu partager.
Henri Quinson à Marseille.
Ouais, cet affichage me saoule vraiment, effectivement. Je me rappelle de la grandeur du temps du général de Gaulle. C'était pas l'affichage du prix des réunions internationales, etc. On parlait d'autre chose. On était effectivement tout à fait dans un autre sujet qui était le caractère, la valeur spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la France aujourd'hui si c'est simplement afficher effectivement le nombre de dollars qu'on dépense quand notre président se déplace? Je trouve ça choquant.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Patrice Bessac?
Ouais, j'aimerais dire un mot de De Gaulle. De Gaulle, par exemple, quand il recevait le dimanche sa famille ou ses amis, il remettait les sous que coûtait le repas à l'Élysée parce qu'il ne voulait rien devoir aux Françaises et aux Français pour ce qui était de ses dépenses personnelles. On a quand même basculé dans une éthique.
La société a changé en même temps.
La société a changé, mais je trouve que cette éthique du responsable politique, qui est de se dire peut-être que son rôle n'est pas d'utiliser son pouvoir, d'utiliser sa place pour claquer 50 000 par-ci, 100 000 par-là dans des hôtels de luxe, peut-être qu'il faudrait revenir à quelques principes simples, comme
par exemple, le service de l'intérêt général et le désintéressement dans l'action publique.
Roger Hawk.
Non, mais c'est sa vie privée. Et puis, est-ce que vous a, ça ne vous est jamais arrivé d'emmener...
De claquer 50 000 euros dans un hôtel, jamais.
Non, mais ça vous est jamais arrivé d'emmener une jolie fiancée dans un relais château en France et de claquer un peu d'argent? Attendez, faut...
Non, mais là, si c'est l'argent du contribuable, alors peut-être pas les Français.
Non, mais il faut avoir un peu...
Attends,
avoir un
garçon, peu de goût. Oui. Bah oui, si c'est les Mexicains qui payent, on peut peut-être dire tant pis pour les contribuables mexicains, mais ça pose le même problème de fond. Et je trouve que cet affichage est indécent en pleine crise financière.
Alors, on continue à parler d'argent puisque le Parisien... poursuit son exploration des finances du PSG. Il publie les salaires des joueurs aujourd'hui, des salaires qui sont autour de 100 000 euros en moyenne. C'est pareil à Marseille, hein, je le dis, parce qu'il y a un encadré dont on parle un peu moins, mais qui est sur les salaires de Marseille. C'est à peu près les mêmes scores. Ça monte jusqu'à 285 000 euros pour Makelele. Là aussi, Patrice Bessac, vous trouvez ça indécent ?
Je trouve ça indécent et je trouve qu'il va falloir se poser la question d'un revenu maximum. Moi, je trouve qu'il est complètement injustifiable qu'un seul être humain possède plus que des millions de personnes, qu'on puisse avoir des revenus qui sont à 100, 200, 300 fois le SMIC, comme c'est le cas dans le foot, mais comme c'est le cas aussi dans les milieux de la finance et des grands patrons.
Ça veut dire, attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'imposer un salaire maximum, au-delà duquel on ne pourrait pas payer les gens.
Il faut un revenu maximum.
Ce serait de quel ordre pour
vous ? Moi, j'ai envie de dire, au-dessus de 10 fois le SMIC, je prends tout. Voilà. Et deuxième, mais parce que c'est une question morale. On ne voit pas pourquoi on dit aux gens, avec le SMIC, vous pouvez vivre. Et on autorise par ailleurs des gens à gagner en un mois, parfois un jour, ce que gagnent des gens pendant 10 ans, pendant 50 ans.
En gros, pour simplifier, c'est au-dessus de 15 000 euros, l'État vous prend tout, c'est ça ?
Oui, je crois qu'il faut imposer l'idée d'un revenu maximum du fait qu'il n'est pas... Vous vous rendez
compte... Mais les grands patrons vont partir à l'étranger, les grands joueurs vont partir à l'étranger.
Mais c'est valable...
Tout le monde va se barrer, Patrice Bessac, avec ça.
Jean-Marc Morandini, vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui des grands patrons de multinationales qui ont plus de pouvoir que des états de millions de personnes. C'est-à-dire, il y a des millions de personnes qui sont en train de crever, et dans le même temps...
Mais ça répond pas à ma question. Ma question, c'est les grands joueurs vont partir à l'étranger. Si vous imposez ça, il n'y aura plus de grands joueurs en France.
Il va bientôt y avoir plus de foot éthique. Il va bientôt y avoir plus que le foot business. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ces grands joueurs, ils sont produits par quoi? Ils sont produits par les petits clubs. Ils sont produits par les structures sportives en France. Et aujourd'hui, tout l'argent est concentré dans le haut. Il faut à un moment donné dire quelque chose de simple. Tous les droits à l'image, tous les revenus sportifs, tous les droits de retransmission doivent redescendre en bas, pas vers le foot spectacle, mais vers le foot amateur.
C'est toujours le même problème. Au lieu d'essayer de remettre au goût du jour le collectivisme et le bolchevisme de l'Union soviétique, moi je pense qu'il faut plutôt essayer de faire gagner plus d'argent au plus bas salaire, plutôt que de limiter les gros salaires. Il faut prendre le problème dans l'autre sens.
Vous êtes contre cette idée de limiter les gros salaires à 15 000 euros ?
Mais bien sûr, je suis contre. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Non, ça ne me gêne pas. Moi, j'aimerais bien les gagner. Moi, je préfère essayer de les gagner que de cracher sur eux ou d'essayer d'imposer un régime communiste. Moi, ce que je voudrais dire sur les joueurs de foot, spécialement sur eux, c'est que ces gens-là, ces types-là, souvent gagnent cet argent, mais seulement pendant quelques années. Ils sont en haut de l'affiche pendant quelques années et ensuite, ils ont du mal à se reclasser, à faire autre chose. Et donc, c'est de l'argent qui va leur permettre de vivre pendant 40 ans ensuite. Donc, ça ne me choque pas et surtout qu'il faut tenir compte des impôts qu'on leur retire, des charges, etc.
C'est des salaires bruts. Henri Quincent, Marseille, vous connaissez bien les banlieues, vous. C'est perçu comment, des salaires comme cela?
C'est vrai que ça peut faire rêver au sens positif, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs de foot comme ça qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. C'est aussi, pour certaines personnes dans ces quartiers, dans nos quartiers, aussi une chance pour pouvoir aussi, non seulement devenir un footballeur réputé, mais aussi gagner de l'argent. Ceci étant, je crois qu'il y a une question de fond quand même, c'est-à-dire pourquoi il y a cette obsession du succès matériel. Donc ma question, c'est un peu quelle éducation, en quoi on croit aujourd'hui, et à mon avis il y a quand même un gros gros problème à ce niveau-là. Et puis alors après, étant donné les valeurs morales ou l'absence de valeurs morales aujourd'hui, ma question c'est pas tellement de limiter les revenus, mais de se dire, voilà, est-ce qu'il faut pas une fiscalité internationale, est-ce qu'il faut pas penser à une harmonisation de la fiscalité, et donc prendre beaucoup d'argent là où il est, c'est-à-dire les gens qui gagnent beaucoup d'argent soit par leur travail, soit par les revenus des capitaux, suppression des paradis fiscaux, il faudrait surtout parler de tout ça, et puis suppression du secret bancaire, comme ça on peut progresser sur toutes ces questions. Donc c'est vraiment une question très très globale et les joueurs de foot ne sont qu'un petit élément de tout ça. Il faudrait parler des salaires des traders, j'en suis
c'est... Alors, un ancien. Justement, c'est ce que j'allais dire, Henri Quincent, c'est qu'aujourd'hui vous êtes moine, mais auparavant vous étiez trader. Donc vous avez évolué dans cet univers où il y a des zéros qui s'affichent sur les chèques, des zéros à n'en plus finir. Donc vous, vous avez quitté cette société du matériel.
Bah oui, c'est pour ça que je réfléchis à ça, parce qu'ayant passé plus de 12 ans maintenant dans une cité HLM où les gens effectivement sont pas du tout dans les niveaux de rémunération que j'ai connus dans le passé, eh ben je vois les deux côtés, si vous voulez, de ces univers, et je trouve ça franchement choquant. C'était déjà le cas à l'époque, je me suis posé des questions. C'est vrai que par la fiscalité, on peut récupérer plus de la moitié d'un salaire, hein. Donc moi, ce qui me paraît important, c'est d'avoir une règle simple, de pouvoir par la fiscalité financer un certain nombre d'équipements collectifs, de pouvoir assurer la solidarité à différents niveaux avec les gens qui sont malades, les gens qui sont plus âgés, les jeunes pour leurs études. Tout ça, ça passe par l'impôt, et le grand problème qui est posé aujourd'hui, c'est la question des frontières. C'est-à-dire que ces joueurs de foot, effectivement, ils vont aller, on le sait, ils vont aller travailler en Angleterre, ils vont aller travailler en Espagne ou en Italie, précisément parce qu'il y a des différences. Donc il faut arrêter avec cette compétition de la fiscalité entre États et revenir à des institutions internationales, et c'est là qu'il faut que le petit peuple, il faut que tout le monde prenne conscience de ces enjeux. Il y a un élément vraiment spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme société pour demain, que ce soit une question de fric, c'est pas intéressant sportivement.
Et juste en réquinçon, l'idée de Patrice Bessac, qui est avec nous, la porte-parole du Parti communiste, de mettre un salaire maximum à 15 000 euros, vous en pensez quoi?
Ben, j'y crois pas, c'est-à-dire je pense pas que ce soit réalisable. Donc je pense qu'il vaut mieux passer par la fiscalité, laisser l'initiative privée, parce que je crois que c'est, dans mon église, on parle du principe de subsidiarité, c'est-à-dire il vaut mieux qu'un certain nombre d'entreprises, d'associations, d'institutions qui prennent des décisions au niveau décentralisé, mais que ce soit au niveau des États, au niveau de l'Union Européenne, au niveau international, on a un système fiscal qui permet une solidarité, et c'est à ce niveau-là, je crois, qu'il faut permettre de récupérer ces excès qui sont scandaleux pour ce qui me concerne.
Patrice Bessac.
Écoutez, d'abord, je n'ai pas un mot à enlever à ce que mon camarade Moine vient de dire, parce que je suis vraiment d'accord avec l'idée, par exemple, que le rôle de l'Union européenne, plutôt que d'organiser la compétition pour savoir qui aura les impôts les plus bas sur les sociétés, doit être au contraire d'organiser la solidarité et de permettre qu'il y ait harmonisation sociale, fiscale, vers le haut.
Mais il n'est pas d'accord avec vous sur le salaire minimum.
J'ai été un peu provoqué.
Sur le salaire minimum, oui, mais le salaire maximum,
J'étais un peu provoqué avec cette question du salaire maximum, mais c'est pour poser un vrai problème qui est, doit-on accepter qu'une société, qu'un système accepte de tels déséquilibres et de telles inégalités de revenus. Contrairement à ce que disait Roger Hoc, quand on regarde les 10 dernières années, on voit qu'il y a un vase communicant. Il y a eu d'un côté augmentation exponentielle des revenus financiers, des salaires des grands patrons, et de l'autre côté accroissement de la précarité et du mal-vivre. Donc en réalité, ça communique. Plus on met dans la sphère financière, dans la sphère boursière, et moins les gens ont ceux qui sont le plus grand nombre. Mais oui, dernier mot, moi j'assume d'avoir aussi, un peu comme mon camarade Moine, un regard spirituel sur la politique.
Et Roger,
il faut aussi poser la question de la morale, il faut aussi poser la question des choix de société. Une civilisation, c'est pas simplement le fric, c'est aussi l'organisation de la solidarité, c'est la place de la culture, c'est l'éducation, c'est pas simplement...
On est tous d'accord là-dessus. On va pas dire que il faut pas que les gens gagnent plus d'argent. Bien sûr qu'il faut que les gens qui ont les plus bas salaires gagnent plus d'argent, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent qu'il y a des gens qui ont des bas salaires. C'est pas vrai. C'est parce que la vie est chère, parce que les taxes, les charges sont chères, les impôts sont chers, et parce que il y a des gens qui profitent du système pour augmenter les prix dans les hôtels. Laisse-moi terminer. Dans les hôtels, dans les restaurants. Je veux dire, bon, il faut essayer d'augmenter les salaires les plus bas. Maintenant, au niveau de la spiritualité, moi je ne suis pas quelqu'un de riche, pas du tout. Et notre ami qui a été moine sait très bien que selon la Bible, un riche a peu de chances de passer les portes du paradis comme un chameau passé dans le chat d'une aiguille s'il a trop d'argent. Donc c'est vrai qu'il faut donner un peu plus de place à la spiritualité.
Être
spirituel, on peut être très spirituel, on peut vouloir que les gens qui ont les plus bas salaires gagnent plus, mais c'est pas une raison pour imposer un diktat communiste.
Dernier mot, il faut pas juste parler en général, il faut voir aussi des exemples concrets. L'entreprise Renault, 1 milliard d'euros filés aux actionnaires, et dans le même temps, elle met en chômage partiel des dizaines de salariés, et pour les payer
à 100% de leur salaire, il fallait beaucoup moins d'un milliard d'euros. C'est un milliard d'euros, ils auraient pu profiter au plus grand nombre.
Et justement, puisqu'on parle de ça, je voudrais peut-être que vous disiez un mot sur une des informations de la matinée, c'est la suppression de postes qui a été annoncée par Total. On connaît les chiffres très bons de Total. Total qui annonçait qu'il allait supprimer au moins 306 postes dans sa division pétrochimie. Plusieurs postes vont être également supprimés dans d'autres endroits chez Total. Le secrétaire d'État à l'emploi, Laurent Wauquiez, trouve scandaleux que Total prévoit des centaines de suppressions de postes en France. Au total, on devrait être entre 400 et 600 suppressions de postes. Roger Houck.
Non, mais c'est vrai que ça, c'est scandaleux.
Ça vous émeut quand même.
Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est scandaleux parce qu'on sait que Total se porte très, très bien. Il gagne beaucoup d'argent. En plus, le pétrole, le prix du baril de pétrole dans le golfe Persique a baissé. Et c'est vrai que Total devrait faire un effort justement pour ne pas licencier. Ça, on ne peut pas ne pas être d'accord avec ça.
12 milliards de bénéfices pour Total. Hein. Henri Quinson.
Bah, c'est toujours les mêmes qui payent la facture. C'est-à-dire ceux qui.
Mais là, il n'y a même
qui...
pas de facture. Bah, puisqu'il oui. y a du bénéfice en bout de course. Donc,
bah, oui, c'est
ça qui est surprenant. C'est que quand il y a une facture, on peut se dire, bon, bah voilà, il faut citez-moi, faire payer la facture à quelqu'un.
Citez-moi le nombre de responsables de banques qui ont sauté et qui en ont subi les conséquences. Moi, je suis désolé, mais j'ai pas de PDG qui habite ma cité HLM avec moi. Quand ils habiteront là, je penserai qu'effectivement, les marchés, il y a une vraie sanction quand on fait des choses irresponsables. Ouais. Ça n'est pas le cas.
On rappelle que Total a dégagé en 2 minutes le plus gros profit jamais réalisé par un groupe français avec 13,9 milliards d'euros. Patrice Bessac.
On s'émeut. Le ministre du gouvernement dit « Oh, c'est terrible !» Mais que fait-il ? Roger Hoc, j'ai envie de vous poser la même question. Vous aviez presque la larme à l'œil devant ces salariés qui allaient être virés. Est-ce que vous voulez, oui ou non, remettre en cause le pouvoir des actionnaires ? Est-ce que oui ou non, on reprend en main la question de la banque et des finances ? Est-ce qu'on taxe ces profits indus ? L'alarme à l'œil, c'est bien. Les mesures concrètes, c'est mieux.
Non, mais moi, je pense que effectivement, le pouvoir des actionnaires, je pense pas qu'il faille y toucher. C'est des gens qui mettent de l'argent. C'est des
pas
gens qui
mettent. Hein.
C'est des gens qui mettent de l'argent. C'est normal que quand ça marche, ils récupèrent les dividendes.
Mais là, ils récupèrent ça, avec 13 milliards.
Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord. Il faut faire un effort pour augmenter les bas salaires. Il faut faire un effort pour essayer de.
Et là,
de
sur Total, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? On interdit les licenciements ?
Oui, pourquoi pas.
Ouais.
On peut très bien interdire les licenciements, pourquoi pas. Vous savez, c'est plus le problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est moins le problème des actionnaires ou des grandes entreprises qui peuvent éventuellement licencier, ont-elles des bonnes raisons, qu'un problème de banque. On a donné beaucoup de milliards aux banques, et les banques, aujourd'hui... Les banques aujourd'hui refusent de prêter. Moi, je connais plein de gens qui voudraient acheter un appartement, ou des entrepreneurs qui voudraient continuer à faire fonctionner leur entreprise, leur usine, et qui peuvent plus parce que les banques ont tellement peur de l'avenir qu'elles refusent de prêter l'argent que le gouvernement leur a donné.
Sur ce point-là, c'est-à-dire sur les banques, je suis d'accord. On a un problème des banques qui n'assument pas leur rôle de service public et de prêter de l'argent pour l'économie réelle. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tout le système qui est fait comme ça. L'exemple Total, c'est l'exemple typique d'une société dans laquelle faire de l'argent pour de l'argent, dégager des 5, des 10, des 15%, et ben c'est plus valorisé, c'est moins taxé que de faire le choix de l'investissement.
Henri Quinson, vous vouliez dire quelque chose ?
Ben oui, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, bon, moi je ne suis pas contre les licenciements dans la mesure où ça permet à une économie flexible de créer d'autres emplois, sinon on serait toujours avec des navires à vapeur. Donc c'est pas sur la question de fond, c'est normal que l'économie se transforme, etc. Et ça peut passer par des licenciements. La question de fond aujourd'hui, c'est pourquoi y a-t-il toute une catégorie de personnes qui assume systématiquement la précarité dans un pays où la mobilité sociale se fait de plus en plus difficile. Donc, en gros, ceux qui ont un capital, eh bien, peuvent profiter du système. Et généralement, ils restent en place parce qu'il y a un système de copinage au sommet. Et à l'inverse, en bas, il est extrêmement difficile d'avoir le ticket minimum pour profiter de cette société. C'est ça la question de fond. Et ces questions-là n'ont été qu'en s'empirant depuis les 25 dernières années. Alors, donc, il y a des systèmes à plusieurs vitesses. Ça va jusqu'à l'école, ça va jusqu'à l'habitation, etc. Et ce jeu de chaises musicales me met très mal à l'aise et je pense que ça renvoie effectivement aux valeurs de notre société. Quelles sont nos priorités ?
Dernier sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la loi qui a été votée hier concernant l'alcool et le tabac. Pour acheter de l'alcool et du tabac, désormais, il faudra avoir 18 ans. On entendait tout à l'heure un professeur qui était l'invité de ce grand direct sur Europe 1 à 12h45 qui nous expliquait que c'était pas une bonne idée, en tout cas en ce qui concerne l'alcool, parce qu'on allait avoir tendance à enfreindre les règlements, surtout quand on était jeune. Qu'est-ce que vous en pensez, Roger Hawk.
Ah, moi, je suis complètement d'accord, totalement d'accord avec l'interdiction de vente de l'alcool et du tabac au moins 18 ans. Ça, c'est évident. Moi, je trouve que c'est une catastrophe au niveau de la santé que ces jeunes.
Enfin, les spécialistes disent que ça risque de les inciter à boire encore plus,
ouais,
par exemple.
Bon, mais ce sera peut-être
interdit.
Oui, mais justement, même si c'est pas pour cette raison qu'il faut continuer à vendre de l'alcool aux plus jeunes. Mais moi, je trouve que pire que l'alcool, c'est le tabac. Je veux dire, moi, je suis un homme heureux depuis qu'on a interdit la cigarette dans les restaurants, dans les lieux publics.
Et c'est le, c'est le rôle des cafetiers de demander à avoir les cartes d'identité, etc. Ça...
Oui, oui, bien sûr. Mais moi, je pense qu'il faut non seulement que les cafetiers demandent les cartes d'identité, il faut vraiment interdire le tabac et l'alcool. Mais en plus, avec le printemps, les beaux jours qui arrivent, je suis déjà effrayé à l'idée que lorsque je vais vouloir me mettre à une terrasse de café, il y aura tous ces empoisonneurs de fumeurs qui vont m'intoxiquer.
Vous allez vous faire des amis, là. Patrice Bessac, porte-parole du Parti communiste.
D'abord, je fais remarquer qu'on va pouvoir aller en prison dans ce pays à 14 ans, voire à 12 ans. Par contre, on ne pourra plus acheter de cigarettes ou de bière avant 18 ans. C'est quand même une petite idée de la responsabilité.
Bon, y a pas de lien, hein,
moi, je suis pour l'interdiction de l'alcool et du tabac pour les mineurs. Par contre, je fais remarquer deux choses. Un, dans ce projet de loi, il n'y a rien. Rien sur le volet prévention. C'est-à-dire, on se contente de la prohibition, mais on ne fait rien sur le volet prévention. Deuxièmement, on a ajouté, personne ne l'a vu, mais on a ajouté la possibilité de la publicité pour l'alcool sur Internet.
Alors, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission.
C'est-à-dire le fait que, par exemple, les vendeurs d'alcool vont faire des sites spécial jeunes, alors que le Internet est le média principal des jeunes aujourd'hui. Et dernier mot, moi je trouve qu'on isole trop la question de l'alcool, la question du tabac avec l'état de notre société. Je l'ai déjà dit sur cette antenne, l'augmentation par exemple de la prise de psychotropes, de cocaïne chez les cadres, c'est aussi du malaise social. Et donc, par le biais de l'Internet, et ne pas traiter par le biais du malaise qu'il y a dans la jeunesse ou dans une partie des salariés, c'est casser le thermomètre
et même quand moi j'étais au chômage, j'ai jamais pris de coke et j'ai jamais bu de l'alcool.
Oui, ben moi je crois qu'on progresse quand même, parce qu'il fut un temps où on donnait des cigarettes gratuites aux soldats français ils faisaient leur service militaire pour bien les addicter et gagner de l'argent. Hein, pour l'État d'ailleurs, c'était pas le méchant capitalisme international à l'époque, c'était l'État qui se faisait de l'argent là-dessus. Et bien, là on progresse, ça veut dire qu'effectivement la pensée. Une approche écologique et pour le compte moral de toutes ces questions, favorable à la santé, on progresse. Il reste qu'effectivement, c'est aussi beaucoup du domaine de l'éducation, donc ça suffit pas de mettre des lois.
C'est aux parents, parce que moi, il me fait marrer quand il parle de l'État.
Patrice Bessac me fait marrer
lorsqu'il parle de la prévention de l'État. Attendez, c'est aux parents à expliquer aux enfants qu'il ne faut pas fumer et qu'il faut boire avec modération. Moi, j'ai des enfants. Mon fils qui va avoir 20 ans, et il ne fume pas et il ne boit pas, c'est une question d'éducation.
Non, mais la famille, c'est une institution importante.
Vraiment, tout dernier mot sur la question de la prévention, il faut se rendre compte de quelque chose. On a dit par exemple pilule du lendemain. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles où il n'y a plus d'infirmières, où il n'y a plus de psychologues scolaires, il n'y a plus aucun personnel d'accompagnement. Et la prévention, c'est quoi?
Et c'est les parents, c'est aux parents.
On va arrêter le débat. Merci à tous. Roger Hawk, journaliste, Patrice Bessac, porte-parole du Parti communiste, et en direct de Marseille, Henri Quinson Moine, qui était avec nous. Dans un instant, votre avis sur l'actualité. Vous allez nous donner en particulier votre avis sur les salaires des footballeurs. À tout de suite.
Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr.